Voilà, bonjour à chacun ou rebonjour pour les personnes peut-être que j'ai déjà vues dans cette journée. On est très heureux de passer ces moments. On vient de chanter des grandes vérités. C'est le fait qu'un jour Jésus-Christ est venu sur cette terre. Alors, on remonte le calendrier. D'ailleurs, le calendrier est fixé sur justement la naissance de Jésus, même si on pense qu'il y a quelques années d'écart entre l'année 2014 et la vraie année donc de la naissance de Jésus. Mais ça nous rappelle qu'à un moment donné de notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un est venu sur cette terre et il est venu pour chacun d'entre nous. C'est une réalité, la réalité de la croix, la réalité de ce qui s'est passé dans ces moments-là. Christ l'a fait pour chacun d'entre nous. J'aimerais qu'on puisse lire l'histoire d'une dame. Et c'est une femme, on ne connaît pas son prénom, et ça arrive comme ça dans les évangiles, il y a quelques histoires, on connaît les gens par leur handicap, on connaît les gens par leurs problèmes, et on ne connaît pas leur nom. Et là, c'est la femme courbée, de même qu'il y a la femme atteinte de la perte de sang, de même, etc. Et vous voyez, dans ces histoires, mais on se souvient d'elle par rapport à son handicap. Luc chapitre 13, versets 10 à 17, voilà ce que nous lisons. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire ? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que sa tante n'est liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. » Amen. Amen. Voyez-vous, dans cette histoire, dans cette femme, chez qui on peut évidemment imaginer toutes les difficultés qu'elle peut éprouver dans la vie, les difficultés du quotidien, je dirais même le regard des personnes, parce que quand vous ne rentrez pas dans une certaine norme par rapport à la société, eh bien, tout de suite, vous ne passez pas inaperçu. Et donc, cette femme, par rapport aux autres, elle avait quelque chose de particulier qui faisait qu'elle ne passait pas inaperçu. Le seul avantage qu'elle avait, c'est qu'elle pouvait passer plus bas que les autres, c'est tout. Mais en réalité, si on veut réfléchir un petit peu au quotidien de cette femme, ce qui, pour beaucoup ici, peut-être, est quelque chose de tout à fait normal, comme prendre un objet sur une étagère, comme certains gestes du quotidien, qui paraissent tout à fait normaux, eh bien, pour elle, devenaient une difficulté. Et toute personne qui, à un moment donné, eh bien, a des problèmes de santé, quelque chose de particulier, eh bien, il arrive que, ah, oui, ça, je peux pas. Ou alors je peux, mais avec de grandes difficultés, voire même en prenant des risques. Vous voyez ? Si évidemment, physiquement, cette femme pouvait éprouver dans son quotidien certaines difficultés, nous comprenons aussi au travers de cette histoire que cette femme vivait en réalité une vraie oppression également. Il nous a dit que Satan la tenait liée depuis 18 ans, on ne connaît pas son histoire, on ne sait pas ce qui s'est passé un jour, etc. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, ce qu'elle aurait dû faire. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a en tout cas une sorte de mainmise sur sa vie qui fait que cette femme vit également dans l'oppression, et ce, depuis 18 ans. Et 18 ans, c'est un sacré bout de vie. Moi, je ne sais pas pour vous, mais 18 ans, c'est quasiment la moitié, moi, pour moi, de ma vie. Alors pour d'autres, vous mettez tous les coefficients multiplicateurs qu'il vous faut pour arriver. Pour certains, ce sera un quart, un tiers, et puis pour les plus jeunes, j'y suis pas encore, moi. Voilà, à 18 ans.
Mais c'est un sacré bout de vie, c'est une sacrée étape pour nous, ça correspond à la période où on va dire de l'éducation, où à un moment donné, eh bien, on déclare que la personne est majeure responsable de ses actes. Vous voyez, donc ça fait un bout de temps d'éducation. Et ça fait 18 ans que cette femme, elle est dans l'oppression, et que même physiquement, il y a des retombées de cette oppression. Alors évidemment, de vivre de façon oppressée, on a un tas de gens, il suffit de regarder les statistiques pour comprendre que pendant cette réunion, il y a au moins une personne en France qui fera une tentative de suicide. Il y en a une toutes les 50 minutes. Il suffit de comprendre que dans toutes ces tentatives, il y en a qui malheureusement aboutissent à la mort derrière cela. Comprendre que la douleur, que la souffrance, que le fait de manquer d'espérance fait partie de notre quotidien. Il suffit juste d'ouvrir les yeux un instant dans notre quotidien. Il suffit juste de voir les personnes. Il suffit juste parfois de tendre un petit peu l'oreille pour comprendre qu'il y a des personnes qui sont dans une réelle souffrance. Pour certains, leur parcours de vie, c'est « rien n'avance dans ma vie ». Il y a un manque de perspective. Parfois même, ce sont des échecs répétés. J'ai raté mes études. Je ne progresse pas dans mon travail, ou pire encore, chaque fois que je fais une période d'essai, on ne me garde pas à la fin de la période d'essai, où on me dit toujours qu'après un ou deux mois, et on ne peut pas reconduire le travail. Alors il n'y a rien pour moi, les portes se ferment sur mon nez. Ma vie sentimentale peut être un désastre également. Et puis, si on veut parler de la relation avec Dieu, j'ai l'impression que les autres ont quelque part ont le droit de vivre certaines choses. Ils me parlent de Dieu, ils me parlent de leur Dieu, de ce Dieu qui délivre, de ce Dieu d'amour, etc. Mais pour moi, c'est comme si l'électroencéphalogramme savait disait zéro. Et puis, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ou alors, j'ai l'impression de saisir quelque chose et puis, montagne russe. Alors c'est toujours sympathique les montagnes russes quand on va au parc Astérix. C'est bien quand on va à Walibi de faire le boomerang, pas après manger. Voilà, mais bon, comme vous revenez en arrière, je vous dis pas, bon bref. Mais c'est vrai que dans la vie, ça devient fatigant au bout d'un moment. D'avoir l'impression que les choses vont bien, puis d'un seul patatrac, ça redescend. Ça redescend, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. À force de rajouter certaines couches, on finit même par en dire « j'en ai plein le dos », un peu comme cette femme courbée. Il y en a plein le dos. C'est parfois le lot des autres, et pour toutes sortes de raisons, ça peut être votre lot à certains moments, ça peut être le mien aussi. C'est difficile d'évaluer les difficultés de chacun quand il y en a. C'est pas toujours écrit sur le front, c'est pas toujours aussi visible que cette femme ce jour-là. Et puis il faut dire aussi qu'on est assez fort pour jouer la comédie sans avoir fait de cours particuliers. On arrive assez bien à masquer un temps en tout cas certains types de difficultés qu'on peut traverser les uns les autres. Ce qui est beau de voir dans la parole de Dieu, c'est que Jésus n'a pas fait de grille de valeur pour intervenir. Là, ce jour-là, semble-t-il, il y avait une foule réunie. Et c'est important pour lui de prendre du temps pour cette personne-là. À d'autres moments, il y avait un petit peu moins de monde, quelques personnes réunies chez quelqu'un. Et puis d'autres fois, c'était une seule personne. Certaines fois, on a appelé Jésus parce que quelqu'un était décédé. D'autres fois, c'était parce qu'il y avait des personnes qui étaient en souffrance, comme des lépreux, etc., qui venaient vers Jésus. Une fois, on a aussi appelé par rapport à la belle-mère de Pierre, qui avait une fièvre. Eh bien, Jésus a pris du temps pour chaque personne. Il n'a pas dit « une fièvre, ça peut attendre encore 48 heures ». Il n'a pas dit à un mort « maintenant qu'il est mort, on ne peut plus rien faire ». Il n'a pas dit « c'est telle personne, non mais est-ce qu'elle est venue au moins hier à la synagogue? Est-ce qu'elle est venue écouter? Ça fait combien de temps qu'elle... » Non, Jésus était là. Et je crois que c'est important qu'on réalise que Jésus est là, que Jésus est venu sur cette terre pour chacun d'entre nous. Il est venu et il a d'ailleurs dit « ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Ce sont les malades. » Et il me semble que si on veut imaginer un petit peu ce qui s'est passé dans ce texte, c'est que Jésus enseignait dans la synagogue et c'est comme si d'un seul coup il arrête ce moment où il est en train d'ouvrir. Je ne sais pas s'il lisait un psaume, s'il lisait dans les prophètes, si c'était la Torah ou quoi, mais il était là et d'un seul coup il s'arrête. C'est comme si ses yeux s'arrêtent sur cette personne pour dire il faut absolument que cette personne, elle reparte libre de ce lieu. Et il me semble que cette réunion, elle a toute sa raison d'être. Ne serait-ce que pour une personne qui peut-être est arrivée dans le cœur, avec quelque chose dans son cœur, dans sa vie, mais que Jésus-Christ veut visiter cet après-midi. Elle a toute sa raison d'être, ne serait-ce que pour une personne. Alors ça a fait parler ce jour-là. Est-ce qu'il fallait, est-ce qu'il fallait pas, etc. Mais l'important, c'était que cette personne reparte libre. Et l'important cet après-midi, c'est que s'il y a quoi que ce soit dans la vie, dans le cœur de quelqu'un, quelque chose qui n'est peut-être pas écrit sur le front, mais qui est bien réel, et c'est que, ne serait-ce que pour une seule personne, ou pour plusieurs, qu'il y ait ce moment de liberté, qu'il y ait ce moment où une chaîne tombe, qu'il y ait un moment où il y a un temps de guérison intérieure, qu'il y ait un moment où quelqu'un dit, j'en ai assez de la vie que je mène, et maintenant je retourne vers celui qui a permis que mon existence soit, je retourne vers celui qui a donné sa vie pour moi, je viens à lui, j'abandonne cette vie de péché, et je viens auprès de lui parce que j'ai besoin de lui dans ma vie. Cette scène se déroule le jour de sabbat, un jour de sabbat. Et le sabbat, il y a deux... L'importance du sabbat tourne autour de deux choses particulières. Le premier, c'est le repos de Dieu après la création. La Bible nous dit que Dieu s'est reposé. Et le deuxième, c'est le souvenir de la délivrance des enfants d'Israël de ce qu'on appelle l'Égypte, c'est-à-dire un moment où bien ils étaient plongés dans l'esclavage. Et écrit, bien, tu te souviendras que tu étais esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. Alors cette femme, elle est là, elle vient à la synagogue et elle démontre par là, quelque part, sa piété, son attachement, certainement, à l'Éternel. Peut-être même qu'il y a une recherche dans son cœur de Dieu, malgré cette oppression, malgré ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse, malgré parfois les regards et tout ce qu'on peut imaginer, il y a certainement chez cette femme une démarche personnelle qui est là. Elle fait penser à une femme dans l'Ancien Testament, vous savez, Anne, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et qui venait, année après année, elle venait et elle priait afin que Dieu puisse lui permettre un jour d'avoir un enfant. Et tandis que même le sacrificateur qui comprenait pas trop ce qui se passait à ce moment-là, qui lui dit « va cuver ton vin ailleurs en quelque sorte, tu as trop bu », parce qu'elle murmurait, certainement qu'elle avait du mal à exprimer les choses, et quand elle a fait comprendre son état de cœur, eh bien le discours a complètement changé. Elle a reçu ce jour-là une promesse qui s'est effectivement réalisée par la suite. Dans l'Évangile, toutes ces personnes qui sont en quelque sorte sortent de l'ordinaire, on retrouve ces gens au bord du chemin. On retrouve ces gens, vous savez, obligés de crier parce qu'on ne les voit pas ou personne ne les conduit pour un moment avec Jésus. On ne les entend pas ou alors on veut même les faire taire. Il ne faut pas importuner le maître. Et dans notre société moderne, il y a quelque chose que l'on vit, ou peut-être que on peut vivre les uns les autres, c'est que tant que nous apportons quelque chose aux autres, vous êtes considérés. En quelque sorte, vous existez. Mais passez juste quelque temps de l'autre côté de la barrière. Et d'un seul coup, parfois, le ton des personnes vis-à-vis de vous change, et leur attitude à votre égard peut également changer. Mais la Bible nous dit quoi ? Elle nous dit que Jésus l'a vu. Au milieu de cette foule réunie, tous ces gens qui étaient là, Jésus la voit. C'est beau de voir que tout ce qui peut-être a pu égratigner nos vies, tout tout ce qui a pu être en quelque sorte être comme quelque chose, comme un échec dans nos vies, dans nos cœurs, tout ce que nous ne pouvons pas faire, Jésus le voit. Il voit nos cœurs, il voit nos vies, il connaît notre histoire, on n'a pas besoin de lui détailler. Il connaît notre histoire, il connaît notre cheminement, il sait parfaitement où nous en sommes. Et Dieu et Jésus, ce jour-là, le regard qu'il a eu, ce n'est pas le regard de la société, de l'époque, qu'est-ce qu'elle fait là, hein, mais ça a été plutôt un regard compatissant. Un regard pour dire « je n'accepte plus que cette personne vienne encore une fois à la synagogue dans l'état où elle est. Je ne l'accepte pas parce qu'elle est une fille d'Abraham. » Et voyez-vous, il y a quelque part, parfois nous laissons traîner dans nos vies à cause de nos mauvais choix, parfois à cause des circonstances de la vie, ces sortes d'oppressions, ces sortes de mainmises. Et nous pouvons leur donner toutes sortes de noms, quels qu'elles soient. On a mis le doigt dans un engrenage et on ne s'en sort plus. Les personnes qui ne peuvent pas prononcer trois phrases sans sortir des gros mots. On ne peut pas parler de quelqu'un sans avoir la critique tout de suite. On ne peut pas s'empêcher de déverser de l'amertume. On ne peut pas, comme cela, alors, il y a le cœur qui est malade, en quelque sorte. Pour certains, on est esclave. La Bible nous dit qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. On est esclave, on s'inquiète toute la journée pour les questions d'argent. Ça nous empêche de dormir. Ça nous empêche d'avoir des relations saines. C'est argent, c'est monnaie, il n'y a rien d'autre. On vit pour ça, on dort pour ça. Et on ne peut pas s'en séparer. C'est là, c'est comme une obsession dans les pensées. Pour d'autres, bien sûr, il y a la bouteille qui se déverse un peu trop dans le verre. Et je ne parle pas de l'eau minérale. Pour d'autres encore, ce sont des regards, ce sont des émissions. On devient esclave de la pornographie. On devient esclave du fait d'avoir des relations ambiguës avec les gens. On profite des réseaux sociaux pour être un peu ambigu dans les relations. Et je pourrais continuer la liste longtemps comme cela. Mais à un moment donné, on laisse une prise sur sa vie. Et il y a comme une oppression qui est là. On vit dans une société où, aujourd'hui particulièrement, dans l'Occident, dans nos pays occidentaux, vous savez, la notion de bien et de mal, on dit, oh, mais vous savez, bon, le bien, le mal, toutes ces questions-là d'oppression, de malin, d'ennemi, on essaye de minimiser ces choses-là. Je lisais un article il n'y a pas longtemps, on estime qu'il y a environ, à peu près, 2000 pasteurs évangéliques, peut-être un peu plus, en France, métropole. Et on estime qu'il y a environ 50 000 personnes qui vivent de tout ce qui est voyance, de tout ce qui est ésotérique en quelque sorte. Les personnes qui pratiquent les sciences occultes. Ça, c'est que les gens déclarés, plus tous les autres. Et on est là en train de dire, oui, mais c'est pas trop, ça existe. Ça existe bel et bien. Et beaucoup sont complètement plongés. Il y a dans les campagnes, vous le savez, il y a toutes ces cultures de guérisseurs, où les gens de bouche à oreille vous disent « Mais t'inquiète pas, tu vas là-bas, tu vas à tel village, il y a telle personne. » Je voyais, lorsque j'étais sur Albi, il y avait un des anciens avec qui on faisait de temps en temps des visites, qui me disait « Tiens, dans tel village, il y a tel guérisseur, il est très connu. Puis là-bas, il y a l'autre, Je dis « Ben... » Il y a l'impression qu'ils étaient partout, puis que nous, on était trois ou quatre pasteurs, là, perdus, au milieu d'un grand territoire, vous voyez. Il y a ces cultures qui sont ancrées, et qui sont là, et bien réelles, qui finissent par mettre les gens sous oppression également. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est que Christ a payé le prix à la croix pour nous libérer. Alléluia. Alléluia. Il y a des maisons dans lesquelles... Et ça, ce sont des réalités, je ne parle pas de l'autre bout du monde, je vous dis bien en France, les gens appellent pour dire « on a peur chez nous ». Et vous vous déplacez, et puis vous allez jeter ça, ça, ça et ça, vous verrez que ça ira mieux. Ça ira mieux. Ne laissez pas l'oppression, ne laissez pas le malin s'installer dans la vie des personnes. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le péché, c'est manquer le but pour lequel nous avons été créés. Nous avons été créés pour être en communion avec Dieu. Chaque jour où la communion n'est pas établie, c'est comme un jour qui est perdu. Tous ces jours où l'on prend des demi-décisions ou bien des options dans nos vies sans les repères de Dieu, c'est se mettre à nouveau sous une oppression. Alors nous traînons parfois dans nos vies les conséquences de nos inconséquences. Et nous finissons comme cette femme qui est courbée à force de mauvais choix, croyant ou non croyant, parce qu'on peut un jour avoir compris, être venu, et puis se laisser à nouveau regagner petit à petit par une chose et par une autre. Et on finit comme cette femme courbée, oppressée par ce qui est mauvais. Ce sont des histoires sans lendemain, ce sont des histoires de non-pardon que l'on ne veut pas régler. Je ne pardonnerai pas à cette personne, je ne pardonnerai pas à mon père, à ma mère, à la société, je ne pardonnerai pas à mon patron, je ne pardonnerai pas aux employés, à mon collègue, je ne pardonnerai pas à mon voisin. La réalité de la parole de Dieu, c'est qu'un jour, nous serons devant le Seigneur. Et la Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ici-bas, nous sommes invités à venir vers Jésus. Mais va arriver un jour où ce n'est pas une invitation que l'on aura, mais une convocation. Voyez la différence. Nous sommes invités à faire la paix avec notre Seigneur ici-bas. Mais arrivera un jour où nous serons devant lui, tout simplement. Et nous ne pourrons pas nous soustraire à cela. Alors, non seulement Jésus la voit, mais il lui parle. Il ne lui dit pas « Depuis quand êtes-vous comme ça, madame ? Comment cela est-il arrivé ? Avez-vous suffisamment prié ?» Mais il lui a dit « Tu es délivré de ton mal. » Et ça, c'est l'œuvre de Jésus à la croix que nous avons chanté cet après-midi. L'œuvre de celui qui a porté la croix sur son épaule. Il a porté jusqu'au maximum de ses forces, jusqu'à ce que quelqu'un ait dû prendre la relève. Cette croix sur laquelle Jésus-Christ a été cloué. Mais il l'a fait afin que nous puissions être libérés. Le châtiment qui nous donne la paix, nous dit la Bible, est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. C'est l'œuvre de ce tout accompli à la croix, où Jésus a rappelé qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu proclamer aux captifs la délivrance. Il est venu renvoyer libre, nous dit la Bible, les gens opprimés, il est aussi venu publier une année de grâce. Il est venu annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour cette personne ce jour-là, cette femme courbée. Une bonne nouvelle est arrivée jusqu'à ses oreilles, jusque dans sa vie. Elle a pu en voir le retentissement. Et cette bonne nouvelle, il nous l'annonce à nous aujourd'hui également. Cette bonne nouvelle, c'est qu'il a payé le prix pour notre liberté. Afin que nous soyons libres de nous-mêmes, guéris parfois de notre passé, guéris de nos mauvaises habitudes, afin d'ôter le poids qui est pesant à certains moments sur les épaules. Le Seigneur a accompli cela sur la croix. Et que nous connaissions le Seigneur, ou que peut-être nous entendions la parole pour l'une des premières fois, j'aimerais vous dire refusez le mauvais joug sur votre vie, parce que quelqu'un est capable de vous libérer de cela. Ce serait une folie dans la vie, quand on n'a pas le choix de quelque chose, alors on fait avec, comme on dit. Si je suis, j'ai mal à la tête, je sais que j'ai à portée de main le cachet qui va faire en sorte que ça va aller, ce serait quand même une folie que de ne pas le prendre. Je dis pas d'en prendre 10, etc., mais ce serait quand même quelque chose, je dis, si t'as envie d'avoir mal à la tête, aie mal à la tête, quoi, mais sinon c'est juste là. Et ce serait une folie dans notre vie que de rester parfois comme nous sommes, dans la condition où nous sommes, alors que Christ a tout accompli. Alors que Christ vient à nous avec un regard bienveillant. Il ne vient pas nous accuser en train de dire, tu vois, tel moment de ta vie là, c'est vraiment pas ça qu'il fallait faire. Et puis regarde, on va aller un peu plus loin là. Tu vois là, ce jour-là, tu aurais dû ravaler ta parole. Et puis, viens avec moi là. Parce que là, on n'aurait pas fini, quoi. On peut y passer 4 jours, on n'aura toujours pas fini. Et c'est de dire à un moment donné, est-ce que tu veux mettre le doigt sur le bouton stop? Et est-ce que tu veux pas repartir avec ton Seigneur? Est-ce que tu veux pas repartir avec cette parole dans ton cœur que Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie, qu'il désire t'aider dans tes choix futurs, qu'il désire t'aider et te guérir par rapport à toutes ces inconséquences du passé, qu'il désire ôter le fardeau qui est sur ton dos aujourd'hui, qui est peut-être trop pesant? Si simplement on veut l'écouter un instant, il finit et il prie pour elle. Et alors qu'il prie pour elle, elle est libre. Elle est enfin libre après 18 ans. Et comble de l'histoire, c'est un jour de sabbat. Symbole de repos, symbole de délivrance. Que cette femme entre dans le repos de Dieu et qu'elle expérimente la délivrance pour sa vie. Alors ça a fait parler. Mais c'était important pour elle, ce jour-là. Et il me semble que pour le Seigneur, cet après-midi aussi, il désire également étendre ses mains sur nos cœurs, sur nos vies. Il n'y a pas de situation insoluble. Je vous avoue que parfois, en entendant certaines histoires, moi j'arrive plus à comprendre le début de la fin, du milieu, c'est une pelote là, vous êtes là et ça commence à faire mal à la tête. Mais je connais celui qui, lorsqu'il met son doigt sur notre vie, lorsque nous venons à lui de tout notre cœur, est capable d'œuvrer en profondeur. Ce qui était impossible devient possible par sa grâce. Il est celui qui est capable d'assainir les choses, celui qui est capable de donner des perspectives à une vie qui n'en a plus. Cette femme, lorsqu'elle marchait, imaginez courbée, mais je sais pas, moi, elle devait voir que le sol, cette femme, et puis à peine un petit peu devant, quoi. Des perspectives pour sa vie, des perspectives pour nos vies. Alors comme cette femme, cet après-midi, nous sommes dans un lieu de prière. Comme cette femme, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin du Seigneur, qui est en recherche dans sa vie pour le Seigneur. Comme Jésus s'est adressé à cette femme, peut-être qu'il vous parle à vous. Dans votre situation cet après-midi. Comme cette femme, Jésus veut aussi peut-être te guérir. Que ce soit une guérison physique, que ce soit une guérison de la vie, que ce soit simplement venir être réconcilié avec Dieu. Comme cette femme, il désire nous libérer de certains types d'oppression qui sont sur nos vies. Comme cette femme, recevons-le simplement cet après-midi. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et demander sa grâce sur nous cet après-midi. C'est un temps qui peut être un moment important pour quelqu'un, pour quelques-uns. Un temps de décision. Un temps où vous avez le choix de repartir comme vous êtes. Vous avez aussi le choix de dire « Moi, je désire venir auprès de Jésus. J'en ai assez de ceci. J'en ai assez de cela. J'en ai assez de ce poids que je n'arrive plus à supporter sur mon cœur. Je viens simplement vers celui qui est capable de faire quelque chose dans ma vie. » Tout au long de mon parcours avec le Seigneur, que ce soit adolescent, que ce soit jeune, que ce soit en tant que pasteur ou non pasteur. Il y a bien des fois où simplement ma prière a été celle-ci. Je viens à toi tel que je suis, Seigneur. avec mes besoins, avec peut-être mes fardeaux, avec mes questions. Mais je viens à toi parce que je sais que tu es celui qui est capable de faire quelque chose. À un moment donné, on a besoin de fermer nos oreilles à tout pour dire qu'est-ce que toi tu veux dire, qu'est-ce que toi tu veux faire. Il est le seul chemin, mes amis. Il est la vérité. Il est la vie. Et cet après-midi, nous voulons prier que cette vie se manifeste au milieu de nous, tout simplement. Nous prions le Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour le regard que tu as eu concernant cette personne, mais beaucoup de fois, en lisant ta parole, en lisant les évangiles, ton regard s'est arrêté là où peut-être le nôtre ne se serait pas arrêté. Tu as vu des choses que les autres ignoraient ou laissaient passer, tout simplement parce que tu aimes chacun de la même façon. Et cet après-midi, il n'y a pas d'oublié au milieu de nous. Il y a simplement des personnes, et peut-être des personnes qui ont un besoin particulier, peut-être même caché aux yeux des autres, mais connu de toi, Seigneur. Et je veux te prier cet après-midi qu'il y ait la manifestation de ta grâce, Seigneur. Que des chaînes tombent. Que des décisions, Seigneur, soient prises pour toi. Que des malades soient guéris au milieu de nous, Seigneur. Alors que ta parole a été apportée, je veux croire maintenant que tu es fidèle pour l'accomplir au milieu de nous, Seigneur. Pendant que nos yeux sont fermés, j'aimerais simplement inviter les personnes qui voudraient dire « Moi, je fais partie de ces gens qui ont du poids sur le dos pour toutes sortes de raisons et on ne cherchera pas les raisons. On veut chercher celui qui est la solution. » Vous avez peut-être besoin de revenir simplement dans la repentance auprès de Jésus pour dire « Seigneur, j'ai fait des mauvais choix dans ma vie, mais maintenant je veux mettre de l'ordre dans ma vie et je veux te suivre. » Peut-être à cause de la vie, beaucoup de choses se sont accumulées sur vos épaules. Ça devient pesant et lourd. Ne voudriez-vous pas déposer ce fardeau auprès de Jésus cet après-midi? Peut-être êtes-vous malade physiquement et vous voudriez dire au Seigneur, « Seigneur, vois, Seigneur, mes difficultés du quotidien. Ne peux-tu pas étendre ta main sur ma vie ?» Si c'est votre cas, je vous inviterai à lever la main, s'il vous plaît. Et nous allons prier cet après-midi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes encore? Voilà, vous pouvez baisser vos mains au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient réclamer le secours, la délivrance du Seigneur? Voilà, est-ce qu'il y en a? Vous pouvez baisser vos mains au fur et à mesure. Est-ce que vous pourriez vous demander de venir sur le devant pendant que les musiciens vont jouer? Venir sur le devant. On aimerait prendre un temps de prière avec vous. Comme Jésus a prié pour cette personne, priez avec vous, priez pour vous, demandez au pasteur, si vous voulez bien, qui êtes dans les rangs, de bien vouloir venir aussi prier avec ses bien-aimés, afin que notre Seigneur et notre Dieu se manifestent. Voilà, est-ce que les pasteurs qui sont aussi dans les rangs voulaient bien venir? S'il y a d'autres personnes encore qui en aient besoin, venez, approchez-vous. On veut prendre ce moment, s'il vous plaît, pour prier le Seigneur, afin que Dieu accorde la délivrance. Alléluia.